Le Forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et oui, de retour sur Radio Immo et Radio Territoria, en direct du Forum de l'aménagement durable avec l'UNAM, l'Union nationale des aménageurs. Et donc, on va réagir à la présentation donc, de Sylvain Grisot, qui est toujours avec nous, urbaniste et fondateur de Dixit.net. J'accueille Sybille Cosnard, bonjour. Vous êtes donc directrice et fondatrice de l'agence CityLinked. Et Nicolas Gravit, bonjour. Vous êtes directeur des phages aménagement. Alors, peut-être une petite réaction à chaud sur cette présentation, justement.
Tout a été dit. Non, on se faisait le constat avec Nicolas que, alors c'est peut-être pas la crise, mais c'est probablement quand même très difficile en ce moment. Et je partage tout à fait, je pense que Nicolas, on sera d'accord aussi, sur le fait qu'on a un besoin urgent de tous faire évoluer nos pratiques. Que ce soit enfin toutes les couches des acteurs de la ville, que ce soit vous aménageurs, les décideurs aussi, les concepteurs, tous. Donc après, on pourra peut-être plus détailler la manière dont on voit ces transformations, mais il est urgent de bouger, ouais.
Donc revoir les pratiques. Nicolas, peut-être un petit mot aussi.
Je confirme ce que dit Sybille. Il est indispensable que nous revisitions à chaque fois nos modes de faire et nos modes de fabrication de la ville. Effectivement, tous les enjeux que Sylvain Grisot a présentés sont là, sont clairs. Beaucoup d'entreprises s'y mettent, voilà, commencent à réfléchir. Des séminaires de direction, effectivement, en parlent. Voilà, quelle voie faut-il prendre pour y arriver? Et je pense que la difficulté, c'est la prise de conscience du temps, l'enjeu du temps, parce que je pense que les enjeux, les questions, les réponses, je pense qu'on les a, même si la technique peut encore s'améliorer. Mais c'est à la vitesse à laquelle on va se transformer et tout l'enjeu, pour moi, il est là.
Et les entreprises ne vont pas toutes à la même vitesse aussi?
Non, absolument pas, oui.
Les acteurs. On va rentrer dans le cœur du sujet. Comment aménager aujourd'hui les territoires pour demain? Alors, Sybille, avant, une petite présentation peut-être de CityLinked. Donc, c'est une structure qui accompagne tous les acteurs de la ville sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrages urbaines. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc, cette structure que vous avez, que vous dirigez, que vous avez fondée?
Oui, donc CityLinked, comme vous le précisiez, est une structure qui fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrages urbaines, c'est-à-dire qu'on a pris le parti d'intervenir très en amont pour conseiller, quand on dit tous les acteurs de la ville, parce qu'aujourd'hui, le secteur public et le secteur privé doivent faire front en commun, et c'est dans cet accompagnement-là que nous agissons. Et nous œuvrons beaucoup en ce moment sur pas mal de transformations de sites en friche, dans des territoires qui ne sont pas des territoires très attractifs. Et la question économique est vraiment problématique parce qu'il y a une volonté très forte de la part de ces territoires, et peut-être que tu en rencontres aussi, Nicolas, dans tes projets, et qu'aujourd'hui, le modèle économique est très compliqué à tenir. Donc, on essaie d'accompagner sur la programmation, le montage, et de faire adhérer la décision politique dans ces accompagnements-là.
Alors justement, on va parler tout à l'heure plus en détail des ouvrages que vous éditez. Nicolas, un petit mot sur FH Aménagement aussi, peut-être alors quelques chiffres de présentation et puis ou nous citer quelques projets en cours.
Donc FH Aménagement est une filiale du groupe FH, comme son nom l'indique, vraiment spécialisée dans la réalisation d'opérations d'aménagement, de grandes opérations d'urbanisme, et avec un modèle assez particulier qui est lié au modèle d'un grand groupe qui on va plutôt nous s'attaquer au cœur de ville et au travail sur les friches industrielles. On fait ça depuis plus de 40 ans. On a fait très peu d'extensions urbaines. Et donc, on est un peu dans ce match-là, même si toutes les méthodes ont changé depuis. Et aujourd'hui, la grande nouveauté, lorsque je fais un retour en arrière, c'est l'appropriation des usages qui a énormément changé. Et l'appropriation, la façon de le faire, et comment les politiques se sont emparées de ces sujets pour réaliser ces projets d'urbanisme. Alors il y en a beaucoup qui ont beaucoup de défauts, d'autres qui sont améliorés, on s'améliore tout le temps. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate sur le terrain, c'est quand même pour beaucoup d'élus un frein au développement de ces grands projets. C'est-à-dire ils ont peur des réactions de leurs
habitants. Le multi-usage.
Pas le multi-usage, mais la ne cesse que s'engager dans des projets d'aménagement, oui. Prendre le risque, oser le faire l'aménagement. Donc on doit, nous opérateurs, publics, privés, quels qu'ils soient, les inciter à y aller avec le prisme aujourd'hui de ce qu'a développé Sylvain Grisot, de l'appréhension des enjeux de demain, des enjeux des 10 ans, des 30 ans qui viennent. Et là, il y a un vrai travail de pédagogie qui est très compliqué. et toutes les annonces qu'on entend, politiques, etc., qui sont à chaque fois contradictoires, fait qu'on perd dans le discours nos élus qui ont, sur le fond, envie de faire, mais qui ont peur politiquement. Donc là, on a un véritable enjeu, c'est comment on accompagne les élus, comment on prend le risque de faire de l'aménagement.
Et c'est très vrai ce que vous dites, le président de Ville-de-France, Gilles Averrousse, l'a dit justement, ça fait 4-5 ans que ça s'est intensifié, hein, que les maires justement n'arrivent plus à faire face aux habitants qui ne veulent plus de ces aménagements. Alors Sybille, vous avez édité un ouvrage récemment sur le multi-usage, on l'a cité, que vous avez apporté, magnifique. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu donc, comment vous éditez ces ouvrages, hein? Vous vous basez sur des études qui sont faites?
En fait, à chaque année, on identifie des thématiques qui nous paraissent opportunes au regard de ce qu'on peut croiser comme retour d'expérience dans nos projets plus opérationnels. Et nous avions publié il y a 3 ans, je crois, ou 2 ans, un ouvrage sur le ZAN qui s'appelle « Voyage en Zizanie » et qui avait pour objectif de porter un regard plutôt critique sur ce ZAN, non pas dans son souhait, puisqu'on a tous envie de consommer moins et de faire mieux, mais plutôt dans le fait de nous rajouter encore des couches,
des contraintes.
Et je pense qu'un gros sujet aussi qui fait que les élus en ont ras-le-bol aussi de suivre des projets, c'est que ce n'est que source de contraintes, avec en plus des coûts financiers pour eux. Donc aujourd'hui, un élu ne voit aucun intérêt, sauf à ce qu'on le lui démontre, et c'est notre boulot à nous tous de faire. Et donc, ces ouvrages-là ont aussi, ce souhait d'avoir une vocation très pédagogique pour faire en sorte que ça s'adresse au plus grand nombre. Donc, le voyage en Zizanie évoquait cette notion de sobriété. On a voulu aller un peu plus loin parce qu'on a pas mal d'élus qui nous ont sollicités en disant « Mais cette question du multi-usage nous interroge. Comment on peut optimiser ? Est-ce possible de faire côtoyer plusieurs usages au sein d'un même bâtiment ? Est-ce possible que dans un immeuble de bureau, le week-end, on puisse accueillir d'autres usages ? Est-ce possible d'avoir... » On a pas mal parlé aussi de l'ouverture des cours d'école. Donc, c'est vraiment toute cette notion de côtoiement des usages, toujours dans l'objectif de consommer moins pour faire mieux. Et ça n'est pas très simple parce qu'il y a beaucoup de contraintes réglementaires, juridiques, voire culturelles aussi, parce que je ne sais pas si en France on a si envie que ça du multi-usage.
Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont plus avancés sur le sujet ?
Je pense que les pays nordiques sont beaucoup plus en phase sur cette notion de partage des usages.
Ouais. Nicolas, peut-être un petit mot justement sur ce multi-usage. Est-ce que vous avez certains projets en ce sens ? Est-ce que ça commence à se voir ? Est-ce qu'il y a une demande qui commence à émerger ?
Alors, ça ne se voit pas trop encore. Par contre, on a sur certains produits immobiliers un début d'appétence. Je pense les conciergeries, là, ça fait une dizaine d'années qu'on commence à voir fleurir ces projets-là dans les nouveaux quartiers. Et ça, globalement, ça fonctionne plutôt bien. On a tout ce qui est à l'accompagnement sur des produits, par exemple, liés aux seniors, donc des locaux communs pour animer des lieux de vie, etc., qui peuvent se mutualiser à l'échelle de la quartier. Nous, on a testé ça 2-3 fois. Il y a
une mutualisation des lieux.
Mais je dirais c'est très petit bras.
Ouais.
Voilà. La mutualisation d'un équipement public, d'une école, comme on a vu tout à l'heure, ouais, ou d'une médiathèque, comme on a vu tout à l'heure sur les images. Aujourd'hui, je pense que ça peut-être compter sur le doigt d'une main en France. J'en sais rien. C'est des niches. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver, effectivement, à développer.
Comment développer ? Est-ce qu'il y a de la pédagogie à faire auprès des Français ? Est-ce que... Sybille,
il y a la pédagogie, puis je reviens souvent sur cette question du coût. Là, j'ai un exemple d'une collectivité qui... Beaucoup de villes ont une bonne connaissance de leur patrimoine en termes d'équipement public, mais n'ont pas forcément la stratégie immobilière et foncière à mettre en place. Et on a quand même vu quelques exemples, à l'heure où on doit faire des économies d'énergie aussi, quelques collectivités être dans ce dispositif-là et par conséquent optimiser le regroupement d'équipements pour faire du multi-usage de plusieurs équipements au sein d'un même bâtiment et libérer autant de foncier pour développer d'autres sujets. Mais pour ça, il faut de l'ingénierie, il faut que les élus aussi aient cet éclairage-là, ce qui n'est pas toujours le cas, et en plus qu'on ait le modèle économique qui tourne. Donc c'est toute une chaîne d'acteurs de l'aménagement qui n'est peut-être pas encore tout à fait au fait, et comme tu le disais, on en est, je crois, qu'au début, et qu'il y a une prise de conscience.
Alors, autre sujet qui est un peu dans le même thème que le gouvernement veut pousser, c'est la réversibilité des bâtiments. Donc, le changement d'usage, c'est ce qu'a déclaré Gabriel Attal. Il veut simplifier justement ce changement d'usage en permettant, par exemple, d'avoir des permis de construire réversibles. Un petit mot sur ces annonces, justement, Nicolas Gravitte.
Alors, il y a deux choses. Il y a la possibilité de faire... pour l'avenir, la réversibilité, effectivement, les permis de construire réversibles, je pense que c'est une très très bonne idée. Il faut que les opérateurs immobiliers s'en emparent pour en mettre en œuvre. Et après, vous avez la transformation des existants aujourd'hui. Oui. Et je pense que la difficulté, elle est là. Aujourd'hui, de la matière pour transformer des immeubles de bureaux en autre chose, on a ce qu'il faut.
Est-ce que tout est transformable ?
Mais tout n'est pas transformable.
Voilà.
En fait, on a des contraintes techniques, simplement de largeur de bâtiments qui ne sont pas adaptables à une transformation en bureau ou en résidence étudiant ou ce que vous voulez. Vous avez des bâtiments qui sont pleinement adaptables. Ça se regarde au cas par cas. Et malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Après, vous avez aussi des contraintes normatives très compliqué, notamment des normes pompiers, sécurité incendie,
qui interdisent
ce genre de choses-là. Donc ça aussi, il faut que de ce côté-là, ça bouge, ça avance, ça simplifie. Possible, pas possible, j'en sais rien, je ne suis pas un technicien, mais en tout cas, il faut y réfléchir et très vite.
Et là, est-ce que justement, c'est déjà une réflexion qui est en cours chez les aménageurs, est-ce que chez les entreprises du bâtiment, est-ce que
dans les entreprises du bâtiment, oui, bien sûr, parce que c'est la ressource foncière de l'avenir, la ressource des futurs projets, et nos clients, les maîtres d'ouvrage, sont demandeurs de cela. Donc là, côté entreprise, oui, il y a de la vraie réflexion, et ça fait déjà longtemps, faut pas se le cacher. Après, c'est plus une question de marché, voir si c'est faisable ou pas faisable.
Et justement, alors pour la construction, les permis de construire réversibles dont parlait notre Premier ministre Gabriel Attal, qu'est-ce que ça implique pour l'aménageur ? J'imagine que c'est plus cher, mais c'est plus rentable sur le long terme ?
Alors, l'impact, c'est pas pour l'aménageur, l'impact, c'est essentiellement plutôt pour le promoteur.
Pour le promoteur, oui.
Et le constructeur derrière. Effectivement, ça va coûter un peu plus cher. Mais si on a une vision long terme, si on a en face de nous un investisseur qui va acheter un bâtiment, qu'il se dit peut-être que dans 15 ans, dans 20 ans, je vais pouvoir le transformer en bâtiment, je vais retrouver une valorisation, donc il peut y avoir un intérêt financier. Donc oui, ça se regarde, mais c'est plutôt à l'échelle du promoteur que ça se joue. Mais nous, côté aménageur, on doit aussi, avec les collectivités,
impacter sur
les règlements d'urbanisme.
Ah, oui.
C'est-à-dire qu'il faut que la règle d'urbanisme nous permette de se dire on a un bâtiment réversible et on pourra transformer ce bâtiment un jour.
Alors, Sybille, tout à l'heure, vous parliez des pratiques que nous devons faire évoluer. Alors, comment s'y prendre ? Est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail ? Quelles sont les pratiques ? Qui doit évoluer ? Et comment s'y prendre ?
On va démarrer par l'élu. Peut-être que le décideur doit décider, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on a beaucoup d'élus qui réchignent à la décision tellement les impacts sont peut-être conséquents pour lui. Donc ça, c'est le premier. Les aménageurs, mais on le disait, c'est qu'il va être de plus en plus rare d'aménager sur des anciens champs de patates, même si vous n'en avez pas vu depuis quelque temps. Et par conséquent, il y avait une expression qu'utilisait Gilles Bouvelot, le directeur général de l'EPFIF, que j'aime bien. On appelle ça le foncier d'occasion. Et il disait finalement les voitures d'occasion sont pour tous moins chères, alors que le foncier d'occasion aujourd'hui, il coûte plus cher que le foncier neuf, ou il va coûter plus cher que le foncier neuf. Donc là aussi, côté aménageur, c'est d'être dans des périmètres d'intervention qui sont beaucoup plus complexes, sur des temps qui étaient déjà longs, mais qui vont être encore plus longs. Et l'impact se produit aussi pour les promoteurs qui ont eu l'habitude de développer des petites opérations vite fait, bien fait, dans du tissu plus ou moins constitué. Et là encore, eux vont devoir s'atteler à des projets en commun avec les aménageurs sur des fonciers qui vont être compliqués, que ce soit des friches, des bâtiments à réhabiliter, du foncier qui va être pollué aussi, donc beaucoup de dépollution. Oui. On parle beaucoup de ce rêve de transformer les entrées de ville en quartier mixte. On écrit un ouvrage en ce moment dessus. On est un peu perplexe sur ça parce que quand on voit quand même les entrées de ville ou les sorties de ville, avant d'arriver à un super quartier mixte avec des beaux logements, des beaux espaces verts, on n'y est pas encore. Donc on a un gros travail tous à faire, que ce soit les décideurs, les aménageurs, les promoteurs, les concepteurs aussi, qui doivent peut-être réinventer aussi leur manière de faire plutôt que d'être dans des espaces assez simples à aménager. Donc c'est vraiment à tout niveau, parce que les fonciers ne sont plus les mêmes.
Justement, on parlera cet après-midi des entrées de ville et des sorties de ville avec le programme Action Cœur de Ville 2. Un petit mot peut-être pour réagir, Nicolas, justement à ce sujet.
Oui, ce sujet, c'est l'impact économique de tout ce travail sur ces entrées de ville, etc. Et la valeur économique des bâtiments existants, puisque c'est un modèle, c'est un calcul différent. Donc, il va falloir qu'un certain nombre d'opérateurs, propriétaires fonciers, se disent pour faire la ville telle qu'elle est besoin, telle qu'elle est imaginée, peut-être qu'il va falloir que je dégrade mon bilan financier. Et ça...
C'est pas évident,
ça va être une autre histoire. Mais si les opérateurs commerciaux, je ne vais pas déborder sur le débat cet après-midi, mais eux-mêmes, ils vont et se disent, je vais retrouver la valeur ajoutée parce que je vais complémentarité mon centre commercial ou ma zone industrielle, là, peut-être que la donne peut être différente. Mais c'est vraiment un calcul économique et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'y est pas encore, mais je pense que beaucoup d'acteurs y travaillent.
On se faisait la remarque avec Nicolas, en ce moment, tous les bilans d'aménagement qu'on travaille, ils sont tous en très, très négatif.
Ah oui ?
Tous.
Oui, donc... Ouais.
D'où le fait qu'on doit faire évoluer tous nos modèles, que ce soit les opérateurs peut-être sur leur main, à tous les niveaux. Tout est négatif.
Un petit mot, oui, vous vouliez rajouter quelque chose. Un petit mot sur le ZAN dont on parlait tout à l'heure. Vous m'avez dit que tous les territoires n'étaient pas égaux face au ZAN. Sibyl, qu'est-ce que vous entendez par là ?
J'ai raconté comme bêtise, d'accord. Ils sont pas tous égaux parce qu'en Ile-de-France, par exemple, on est déjà très constitué, donc très ZANO-compatible parce que contraint et donc on a déjà reconstruit la ville sur la ville. Parcourir, voire vivre parfois dans des territoires plus, c'est pas ruraux, mais je vais parler des territoires de front de mer où notre appétence pavillonnaire, elle est encore quand même très présente et ces territoires-là sont constitués de pavillonnaires et les gens qui vont vivre là sont constitués veulent du pavillon. Donc, je me mets à la place d'un élu qui a une commune qui subit une forte pression foncière parce que, par exemple, la Bretagne est de plus en plus sollicitée parce qu'il fait un petit peu moins chaud pendant l'été. Et les gens qui viennent là, ils veulent construire, ils veulent leur pavillon. Donc, que fait le maire par rapport à cette injonction du zéro artificialisation nette, par rapport aux besoins et aux demandes de leurs habitants?
Donc, il y a une mutation aussi de la population qu'il faut prendre en compte. C'est ce que vous dites avec le réchauffement climatique.
La question que je me pose, c'est est-ce que c'est encore nos générations qui sont très dans cette appétence du pavillonnaire et que les plus jeunes, dans cette volonté forte de sobriété foncière, auront moins envie de ce pavillon. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que je constate. En tout cas, dans les trentenaires, il y a encore le schéma où j'ai mon logement collectif en centre-ville et dès que je fonde ma famille, hop, je vais prendre mon pavillon.
Alors, il y a une étude IFOP qui vient de sortir, qui est sortie il y a 10 jours, justement, qui confirme ce que vous dites. Les Français, toutes générations confondues, sont encore très friands donc du pavillon. Pour 80% d'entre eux, souhaitent vivre à terme dans une maison individuelle. Peut-être pour terminer, un petit mot pour conclure, Nicolas.
Pour rebondir sur le ZAN, ce qui est un peu... gênant dans toutes ces discussions, c'est qu'on n'arrive pas, je trouve, à avoir suffisamment une analyse territoire par territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer la même règle à tous les territoires. Donc, il faut vraiment avoir une analyse fine, je dirais EPCI par EPCI, commune par commune, pour se dire
ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Donc, une décentralisation, au final...
Voilà. Et quand on parle aussi d'artificialisation, par exemple, il faut également bien réfléchir à la nature des sols qu'on veut artificialiser ou désartificialiser, la qualité du sol question. Donc ces sujets-là sont complexes. Tout le monde continue à réfléchir à ça.
Donc c'est du cas par cas.
Donc c'est du cas par cas. C'est-à-dire l'objectif global, on est tous d'accord. Il faut tendre vers les objectifs qui ont été fixés, c'est clair. Mais après, il faut vraiment le regarder au cas par cas, en fonction des zones d'emploi. On ne parle pas beaucoup, on parle beaucoup de logement, mais on ne parle pas des zones d'emploi, de l'activité, la réindustrialisation. Où est-ce qu'on fait ça? Donc, ce qu'il faut artificialiser ou pas. Donc, ces débats-là, c'est des débats locaux, des débats de stratégie nationale, d'aménagement du territoire. Je pense qu'aujourd'hui, la politique d'aménagement du territoire a disparu en France. On est beaucoup à la regretter. Et voilà. Donc, il faut vraiment se pencher, ne pas l'oublier, l'industrie et l'emploi, parce que si on veut éviter les mouvements pendulaires et l'automobile, comme l'expliquait Sylvain, il faut aussi que les emplois soient à proximité. Donc, où est-ce qu'on réindustrialise aujourd'hui? Et le ZAN est une vraie question par rapport à ça.
Voilà. Sibyl, pour conclure, un dernier mot.
On a du boulot. Allons-y, tous ensemble.
Sylvain, un petit mot peut-être en conclusion aussi.
Non, mais c'est le bon. Je pense qu'on peut, il faut s'arrêter là-dessus. On a du boulot, ce qui est une bonne nouvelle aussi, mais du changement aussi face à nous. Mais il y a des changements qui sont plus difficiles que d'autres. Là, c'est des métiers passionnants, donc allons-y en effet.
Alors, on va peut-être finir. Je crois qu'il y a une question pour terminer. Comme ça, on termine en beauté. Et juste, je vous rappelle que demain, Guillaume Casbarian sera là. Donc, vous pourrez lui poser vos questions, justement, lui faire part de vos attentes. Alors, une question, monsieur.
Oui, bonjour. Donc, par rapport à ce que vous avez proposé, vous avez montré comme différentes crises en termes de gestion du territoire. Est-ce que le modèle numérique pourra nous donner, par exemple, dans le futur, une solution ou bien un modèle d'un territoire ou d'une ville qui pourra nous permettre de bien consommer l'espace urbain, d'une part, et d'autre part, de bien consommer aussi l'énergie face à la question du changement climatique.
Une question très intéressante.
Alors, je pense qu'aucun outil et donc aucun modèle numérique ne nous permet de... Ce n'est pas lui qui amène la solution. Par contre, on le voit bien que par rapport à tous ces sujets, que ce soit la consommation foncière, tu le disais tout à l'heure, la qualité des sols, etc., etc., on a des questions d'analyse et de compréhension de l'existant. Finalement, la sobriété foncière, elle commence d'abord par regarder les espaces urbanisés pour voir où on est, où il y a de la place, etc. Et ce n'est pas que du foncier, c'est dans le bâtiment. Et ce n'est pas que des espaces vides dans le bâtiment, c'est aussi des temps vides, vous en parliez tout à l'heure, sur cette question de la mixité des usages, etc., etc. Donc ça pose des questions d'outils à certains moments, et donc d'outils numériques. Ça pose des questions d'indicateurs. On travaille sur des indicateurs d'usage aujourd'hui. On n'a pas d'indicateurs standardisés de l'usage des locaux. Et ça nécessite aussi de faire beaucoup de terrain. Hein, et on le voit bien là-dessus. Faut d'abord savoir ce qu'on cherche avant de tailler des outils. En tout cas, faire un outil et se dire que ça va nous amener la solution, ça va nous faire des trucs qui font rêver les décideurs, mais qui servent à rien.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous trois.